Eh bien, le texte qui a été prévu par Mario pour introduire sa méditation se trouve dans le prophète Ésaïe, au chapitre 9, prophète Ésaïe, chapitre 9, à partir du verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donnez à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin, au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Que l'Éternel bénisse sa parole et nous rende attentifs à la méditation de notre ami Mario.
Nous avons eu la semaine passée, la semaine antérieure, des cultes sur le service. Et ce culte, c'est un peu en continuation sur ce qui a été dit. Mais maintenant, plutôt que nous sommes prêts à servir, que l'Église s'est mise debout, qui a pris le compromis, la question se pose de comment bien servir. Même si mes enfants disent que je suis vieux, je ne me considère pas encore très vieux. Mais pourtant, je ne me rappelle jamais d'avoir écouté un culte qui parle sur la corruption. On parle beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses. Il y a des cultes même qu'on a déjà écoutés deux, trois ou plus de fois, ceux qui sont longtemps dans l'Église. Mais on devrait peut-être parler un peu plus sur la corruption. Le titre du culte aujourd'hui, c'est « Prêt pour servir, plaidoyer pour une bonne gouvernance ». Et aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, la corruption. Et quand nous pensons, ou quand nous parlons de corruption, nous pensons habituellement les gouvernements qui sont corrompus. Et tout de suite, nous vient à l'esprit, ça c'est un pays d'Afrique. Les gouvernements corrompus, c'est typiquement africain. Ce n'est pas en France que cela arrive quand même, non? Et pourtant, il y a quelques mois, le ministre de l'économie et des finances en France, pas d'un pays africain, a dû démissionner. Quand même, si cela était arrivé ailleurs, peut-être qu'il ne démissionnerait pas, d'accord. Mais pourtant, et pas plus tard que cette semaine, jeudi, dans Le Monde, il y avait une information, un article, merci, qui disait que selon une étude de la Commission européenne, la France, chaque année, elle perd, tenez-vous bien, 32 milliards d'euros en évasion fiscale. C'est beaucoup, hein? Alors, on peut critiquer la méthode, et c'est ce que plusieurs gouvernements européens ont fait, on peut critiquer la méthode de l'étude, mais pourtant, les chiffres sont là. C'est énorme ce que chaque année, à cause de la corruption, le gouvernement, pas seulement le gouvernement français, mais les gouvernements partout dans le monde, ils perdent de cela. D'où l'importance d'une théologie sur la bonne gouvernance. Vraiment, c'est d'actualité parler sur corruption. Alors, des mots comme, par exemple, responsabilité, réactivité, intégrité, transparence, respect du droit, participation, efficacité et compétence, et équité et absence d'exclusion sont d'actualité et sont importants. Qu'est-ce qui rend bonne une gouvernance? Puisqu'on va parler de bonne gouvernance, il faut peut-être commencer par définir qu'est-ce qu'est bonne une gouvernance. On considère habituellement la gouvernance comme un processus ou un moyen par lequel une décision est prise et ensuite elle est mise en application. Une bonne gouvernance, cependant, se réfère à la fois à des moyens justes et à des fins justes. Moyens justes sont satisfaits quand les règles qui régissent la prise de décision d'un gouvernement sont d'abord équitables, transparentes et responsables, ainsi que lorsque les personnes à qui est confiée la mise en application des règles le font d'une façon transparente, intègre et efficace. Ce sont des mots qui vont revenir souvent. Alors, nous avons vu qu'est-ce que ce sont des moyens justes. Et maintenant, des fins justes. Les fins justes, c'est le résultat final quand il est équitable, quand il favorise le bien-être de tous. Et habituellement, la corruption, c'est pour le bien-être de quelques-uns aux dépenses de la grande majorité. La mise en application des actions ont pour conséquence habituellement une baisse de la pauvreté et de la souffrance humaine. Vous comprendrez pourquoi je parle de ça. Baisse de pauvreté. Pourquoi nous les adventistes, on devrait être les premiers à lutter contre la corruption? Premièrement, nous croyons que Dieu est créateur. Dieu, en tant que créateur, il est souverain. C'est lui qui a créé le monde. Et je vous invite à aller tout au début, Genèse 1, et nous verrons que au chapitre 1, au verset 26 et 27, quand Dieu met dans son cœur, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu a créé l'homme à son image. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 28, il les a responsabilisés. Dieu a confié, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Donc Dieu a confié la gestion de l'ordre qu'il venait de créer à qui? À l'homme. À l'homme, bien sûr, à l'être humain. Au chapitre suivant, toujours en Genèse, le verset 15 à 17, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin de l'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous voyons que Dieu va donner l'ouverture à l'homme, il va lui demander qu'il soit transparent, et en même temps, il va responsabiliser la gestion de l'homme, la gestion de la terre que l'homme, il en a. Malheureusement, nous avons pas seulement le chapitre 1 et le 2, mais nous avons ce qu'on appelle que parmi les 1189 chapitres de la Bible, le chapitre le plus tragique de la Bible. Et c'est Genèse 3. Genèse 3 qui nous parle exactement de la chute, le péché quand il rentre dans la terre. Et la chute a été une infraction à la confiance et à la responsabilité que Dieu met sur l'homme. Qu'est-ce qui va se passer? Chapitre 3, au verset 8 et 9. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent, quoi faire ? Se cacher. Ça commence. Devant l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. Et Dieu, l'Éternel Dieu, appela l'homme et lui dit : Où es-tu ? Voilà. La perte de transparence. On cache. Le péché a enduit qu'on n'est plus net, on n'est plus responsable. La première grande dissimulation, c'est l'homme lui-même qui se cache de Dieu. On ne fait jamais la corruption à la grande, sous la grande lumière du jour. On le fait toujours en cachette. Il y a beaucoup d'autres passages qui parlent exactement sur que Dieu est tout-puissant. On ne va pas les voir parce que le temps ne le permet pas, mais vous pouvez chez vous les regarder, le psaume 24:1, Ésaïe 40 du 12 au 24 et Daniel 4 du 34 au 37. Tous ces passages démontrent que Dieu est puissant et Dieu a la souveraineté sur toute la terre. Même Cyrus, un monarque perse, il a reconnu en 2 Chroniques 36-23 que l'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné, la souveraineté de Dieu. Donc nous avons vu que d'abord nous devrions être responsables parce que Dieu est le Créateur. Deuxièmement, nous devrions agir responsablement parce qu'un jour, Dieu va nous demander des comptes. Ce n'est pas que Dieu nous a donné la responsabilité, nous a donné ce que nous avons, et puis nous pouvons faire ce que nous pouvons. Nous avons écouté la semaine passée la parabole des talents, où après que le maître, le Seigneur, a donné des talents, après qu'il est parti, il revient et il demande des comptes. Ecclésiaste au chapitre 12, au verset 13 et 14, il nous parle exactement sur cette responsabilisation qu'un jour nous devrons prêter devant Dieu. Écoutons la conclusion de tout le discours. Donc le résumé de tous les livres d'Ecclésiaste, il va le résumer en 2 versets. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Un jour, nous devrons prêter des comptes devant l'Éternel. Acte 17, 31, il dit, il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice, l'importance de la justice, par un homme qu'il a désigné pour cela. Même ce qu'on fait caché, même si personne ne le sait, Dieu un jour nous demandera des comptes sur ce que nous faisons. Troisièmement, Dieu est un Dieu de justice. Alors, c'est intéressant que la justice, après l'idolâtrie, est le deuxième sujet le plus parlé dans l'Ancien Testament. Et pourtant, comme j'ai dit au début, on parle si peu de justice. On parle d'idolâtrie, de ne pas avoir d'autres idoles, on parle sur l'amour de Dieu, mais on parle assez peu sur justice. C'est étonnant de voir si peu de culte sur l'injustice. C'est même troublant. La justice biblique, le souci pour la bonne gouvernance, comme elle est importante pour Dieu. D'ailleurs, on a étudié ce matin, on a revu ce matin, l'importance sur les relations interpersonnelles, de comment c'est important de rétablir les relations interpersonnelles une fois qu'elles sont brisées. Des 10 commandements, il y a 4 qui parlent de notre relation entre nous et Dieu, et il y en a 6 qui parlent de notre relation les uns avec les autres. Six commandements qui parlent de relations interpersonnelles. Et quand Dieu a parlé des 10 commandements, nous savons tous au chapitre 20 de Exode, quelques-uns ils le savent même par cœur, c'est intéressant que tout de suite après, du chapitre 21 jusqu'au chapitre 23, verset 9, il va donner des lois qui vont réglementer les relations personnelles et sociales. Comme c'est important pour Dieu cela. Et nous lisons au chapitre 23 les deux derniers versets que je vous ai cités. Donc c'est tout le chapitre 21, tout le chapitre 22, et le 23 jusqu'au verset 9, et les deux derniers versets, le 8 et le 9, disent « Tu ne recevras pas de présent ». D'autres versions disent « Tu ne recevras pas de cadeau ». En français courant, on pourrait dire « Tu ne recevras pas pot de vin ». Quel était le mot que vous avez dit? Je ne connais pas. Vous ne recevrez pas, tu ne recevras pas des pots de vin. Car les pots de vin aveuglent les clairvoyants et pervertissent les paroles des justes. Tu n'opprimeras pas les migrants, l'étranger. Vous savez ce qu'éprouvent les migrants, car vous avez été des immigrants, des étrangers dans le pays de l'Égypte. Ne pas accepter des cadeaux. Être honnête, justice envers l'opprimé. Et habituellement, quand il y a corruption, qui sont ceux qui perdent le plus? Ce n'est pas les riches. Habituellement, c'est les pauvres qui souffrent le plus. Ce sont les pauvres, les victimes même de la corruption. D'où l'importance de ne pas accepter des pots de vin. Et il y a plusieurs autres passages qui parlent sur des pots de vin. On peut regarder seulement une, Deutéronome 16, au verset 19, où nous est rappelée cette éthique anti-pots de vin. Deutéronome 16, verset 19, « Tu ne porteras pas atteinte au droit, tu n'auras pas égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras pas de cadeaux, car les cadeaux aveuglent les yeux des sages et pervertissent les paroles des justes. » Encore une fois, cette éthique qui nous montre, qui est très présente dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, je veux dire, mais qui est quand même assez peu présent dans le Nouveau Testament. Nous avons quelques exemples de pots de vin dans le Nouveau Testament, malgré cela. Jésus lui-même, il a été vendu par combien de pièces d'argent? Par 30 pièces d'argent. On a fait un marchandage, une corruption, encore là. Nous connaissons l'histoire d'Ananias et Saphira, où ils avaient promis de vendre un champ et le bénéfice ou l'argent de le dédier intégralement à l'Église. Et puis, ils vont retenir une partie parce que le montant était beaucoup plus élevé de ce qu'ils avaient imaginé. Ça leur coûtera la vie, cette corruption. Et nous avons enfin l'exemple de Simon, le magicien, qu'à un certain moment, il se dirige vers Pierre et il essaye aussi de marchander, de acheter le don du Saint-Esprit. Combien il pourrait être riche s'il avait accès à cette capacité de faire des miracles. La Bible a toujours un souci pour le commerce malhonnête, un souci de Dieu. Et surtout en Lévitique, Dieu va parler contre une chose qu'aujourd'hui on ne voit plus, mais les balances fausses. En Lévitique, au chapitre 19, tout à la fin du chapitre 19, à partir du verset 35, dit « Vous ne commettrez pas d'injustice ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, un épha juste et un hin juste. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes prescriptions et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique, car je suis l'Éternel. » Il y a beaucoup d'autres passages, Proverbes 11, 1, 20, 23, Ézéchiel 46, 45, 10, Osée 12, 7, Michée 6, 6 à 11. Et c'est alarmant la fréquence avec laquelle Dieu nous rappelle l'importance d'avoir des poids justes, des mesures justes, que la balance ne soit pas faussée. Quand je suis sorti de l'Espagne l'année passée, j'ai terminé de travailler le 15-16 décembre parce que j'avais encore des vacances à profiter et les derniers 15 jours, c'était des vacances. Mais légalement, j'ai travaillé jusqu'au 31 décembre. Et en réglant avec l'administration, ils m'ont payé tout ce qu'ils devraient payer. Et quand je suis arrivé en France, j'ai remarqué quelque chose de bizarre dans le compte bancaire. J'avais encore le compte bancaire espagnol. J'ai remarqué qu'il y avait un salaire de plus. Je ne sais pas à combien de vous, cela vous est déjà arrivé d'avoir un salaire de plus. Alors, j'ai téléphoné à l'administrateur, j'ai dit « Écoute, il y a un problème, vous m'avez payé un salaire de plus. » Il m'a dit « Mais non, c'est le troisième salaire, c'est normal que tu le reçoives. » Bon, j'ai laissé passer quelques temps, j'étais encore avec les cartons, emballage, etc. Mais quand j'ai eu un peu plus de temps, vers le 20-23 janvier, j'ai regardé attentivement et en effet, il y avait un salaire de plus. Même en plus du troisième mois, etc., il y avait un salaire de plus. Et j'appelle de nouveau l'administrateur et je dis « Écoute, vous vous êtes trompé. » Vraiment, non, on ne s'est pas trompé, c'est juste. Je dis, écoute, c'est mieux que tu regardes avec le comptable. Il parle avec le comptable et le comptable dit, non, c'est tout à fait juste. Mario a reçu ce qu'il a reçu, il doit le recevoir. Et la tentation. Bah, j'ai déjà signalé, s'ils ne veulent pas regarder le problème, c'est à eux. La faute, la responsabilité. Et comment la tentation nous vient de dire « J'ai déjà fait ma part, je n'insisterai pas. » Et j'ai quand même insisté et j'ai dit « Non, regarde bien Marc, il y a un problème. » Et 2 heures plus tard, on faisait du Skype, du chat, et il est venu, il m'a dit « Tu as raison Mario, on s'est trompé. Quand tu pourras, fais le transfert vers nous parce que c'était notre faute, c'était une erreur du comptable parce qu'on paye le 25, toi on t'avait déjà payé tout le 16 et puis le 25, voilà, il a payé et il s'est trompé. Il a payé encore une fois ton salaire et il n'aurait pas dû, donc c'est notre faute. La mesure juste, la balance juste, comment sommes-nous en train de le vivre au jour d'aujourd'hui? Dieu aujourd'hui peut-être parlerait de montre juste. Combien de temps nous passons chaque jour, ou de temps en temps, sur Internet, quand nous sommes dans notre lieu de travail, à faire des choses, à regarder de l'email privé? Combien de fois? Et là, je m'adresse aux étudiants, aux jeunes. Combien de fois on ne fait pas aussi de la corruption dans les examens, qu'on copie, qu'on plutôt qu'être honnête et dire ce qu'on sait, d'écrire ce qu'on sait, on utilise des aides-mémoire qui pourtant nous savons qu'ils sont interdits, et nous utilisons, c'est aussi une façon de ne pas être juste, d'injustice. Combien de fois aussi nous profitons de ne pas payer la TVA. Alors, si nous avons un travail à faire chez nous, je ne sais pas ici en France, mais ça m'est arrivé, et je ne crois pas que c'est seulement en Espagne que cela me soit arrivé, où l'artisan qui vient me proposer le travail, quand je lui demande ça coûte combien, il me dit ça dépend. Ça dépend si on inclut ou pas la TVA. Ils peuvent vous faire le service et ça coûte 20% de moins. Et quand on doit payer 10 000 euros pour changer les fenêtres, bah, 10 000 euros. Comment réagissons-nous devant la corruption? Ça, c'est le manque à gagner que l'État il a. Si tous les citoyens en France et partout dans le monde payaient les impôts, on n'aurait pas besoin, on serait pas en crise économique, je vous assure. On ne parlerait pas de crise. C'est à cause d'une corruption généralisée, même parmi les croyants, les chrétiens, les adventistes aussi, que nous pouvons être tenus responsables pour cela. La difficulté que celui qui est dans le mal, il a à reconnaître qu'il est dans le mal, qu'il vole. On ne va pas lire, mais Malachi, on connaît bien le passage de Malachi 3 à 8, quand à un certain moment, l'homme vole à Dieu, et Dieu dit, vous me volez, et vous me demandez, en quoi avons-nous volé? Vous savez, le péché rend la personne, le pécheur, impertinent. Osez même. J'ai rien fait de mal. Tout le monde le fait. En plus, l'État, il taxe trop. C'est pour ça qu'on cherche des paradis fiscaux et qu'on va ailleurs. Sans doute, l'État actuel n'est pas plus injuste que Rome impériale à l'époque de Jésus et à l'époque de Paul. C'était une Rome qui tuait les chrétiens. Et pourtant, Paul et Jésus vont dire « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il a dit même de prier pour le gouvernement, pour l'empereur. Ne vous en faites pas si parfois il y aura un mot, c'est normal. Hein. Il a demandé que les chrétiens devraient prier pour l'empereur. Et pourtant, ce n'était pas le gouvernement le plus juste qu'il puisse avoir à ce moment-là. Quel type d'attitude devrions-nous avoir face à la corruption ? Ellen White, dans son livre « Ministère de la guérison » à la page 187, elle dit, et je passe à citer, « La parole de Dieu avertit contre les pratiques de ceux qui s'enrichissent à travers l'oppression et la souffrance d'autrui. » Attention, la parole de Dieu n'est pas contre ceux qui s'enrichissent. Il y avait énormément de personnes qui étaient riches. Abraham, Isaac, Jacob, ils étaient riches. Le problème, c'est contre ceux qui s'enrichissent à travers l'oppression et la souffrance d'autrui. Dans tous nos affaires, elle nous apprend à nous mettre à la place de ceux avec qui nous entrons en contact. Tu feras à l'autre ce que tu aimeras qu'on te fasse à toi-même. Celui qui profite de l'infortune des autres de façon à se bénéficier soi-même, celui qui profite de la faiblesse d'autrui, ou de son incompétence, comme c'était le cas du salaire en Espagne, est un transgresseur des principes et des préceptes de la parole de Dieu. Et nous devrions faire plus attention à cela. Conclusion, quelle attitude face à la corruption ? quelle devait être notre attitude en tant que chrétien, en tant qu'adventiste, en tant que membre engagé envers la corruption. Tout d'abord, c'est évident, ne pas la pratiquer. Être un exemple. Nous sommes appelés à être une lumière pour que les autres puissent voir en nous que nous sommes différents. Et je peux vous dire que quand l'artisan qui me proposait les fenêtres sans la TVA, je lui ai dit non, je veux tout le prix, je veux payer la TVA. Il me regardait un peu disant mais attends, t'es bizarre. Oui, nous sommes bizarres et nous sommes appelés à être différents des autres. Nous ne pouvons pas suivre le courant, nous ne pouvons pas faire comme tous les autres. Ce n'est pas une excuse pour nous, ne pas la pratiquer. Deuxièmement, Dieu nous appelle à prendre en charge ceux qui sont victimes de l'oppression. On vous a dit tout à l'heure, on a vu que c'est surtout les pauvres qui sont les plus affectés par la corruption. Et ce n'est pas par hasard que plus le pays est corrompu, plus grand est le pourcentage de pauvres dans le pays. Nous sommes appelés à être du côté des victimes de cette corruption, les pauvres, les opprimés, les démunis. Et c'est la raison d'exister d'ADRA. Je ne pouvais pas m'empêcher de parler d'ADRA, bien sûr. L'idée maîtresse du ministère de Jésus était auprès des marginalisés plutôt que de dénoncer l'oppresseur romain. Et pourtant, troisièmement, dénoncer la corruption, c'est aussi notre obligation. Il ne suffit pas de... Nous connaissons souvent cette idée de donner le poisson. On dit, tu donnes un poisson à un pauvre et tu l'enlèveras à la faim. Quel est l'objectif de toute bonne organisation de développement? C'est pas seulement donner le poisson, mais apprendre à pêcher. Comme ça, il pourra alimenter soi-même pour le reste de la vie. Ça, c'est le principe du développement, les projets que ADRA et d'autres ONG font par le monde. Pas seulement donner le poisson, que parfois c'est nécessaire, c'est la charité, en cas d'urgence, il faut donner à manger, il faut donner à boire, il faut donner un abri. Mais c'est regarder plus loin et donner le poisson. Et puis un troisième pas, que c'est aussi important pour ADRA, mais pas seulement, pour tout le monde, c'est cette idée de conscience. À quoi me sert que j'apprenne les pêcheurs à bien pêcher dans les techniques si un kilomètre plus loin, il y a une usine qui est en train de polluer toute la rivière et tuer tous les poissons? Ça ne sert à rien. Je peux apprendre les meilleures techniques de pêche. Pas pour autant, il va pouvoir sortir de la pauvreté, de la famine. Il faut apprendre aussi à qu'il puisse défendre ses droits, à qu'il puisse parler, à dénoncer l'oppression. Et Dieu nous appelle cela. Regardons en Proverbe, au chapitre 31. Et très souvent, l'Église adventiste n'est pas assez vocale en dénonçant l'injustice qui existe dans le monde. Proverbe 31, au chapitre 8 et au verset 9, Dieu nous dit « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends la cause du malheureux et du pauvre. » Les chrétiens souvent ont excellé dans la prise en charge des pauvres. Ils ont grandi dans son désir d'engagement social. Je crois que les chrétiens aujourd'hui, ils doivent franchir une nouvelle étape en parlant au nom des personnes pauvres, de celles qu'on oublie souvent. Comment ? L'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui était très étonné que parfois je participe à des manifestations. Et oui, je participe à des manifestations. Chaque 17 novembre ou 17 octobre, je ne me rappelle plus le mois précis, exactement, mais 17 octobre, la journée mondiale contre la pauvreté, je sortais et j'allais à Madrid manifester contre la pauvreté, contre la corruption. Et je crois que nous, adventistes, nous devrions être un peu plus vocaux, parler contre ce qui n'est pas bien. Par exemple, signer des pétitions. Aujourd'hui, on peut signer une pétition par Internet. Quand il y a une injustice, quand il y a quelque chose qui n'est pas bien, pourquoi ne pas signer une pétition ? ADRA, il y a quelques années, a lancé, ensemble avec le ministère des femmes, à niveau de la conférence générale, une campagne End It Now contre la violence qui est faite contre les femmes. Ce serait bien que tous les adventistes puissent signer aussi cette pétition. Nous n'agissons pas ainsi seulement parce que c'est moralement juste de le faire, mais aussi parce qu'un tel plaidoyer fait partie, par essence, de ce que c'est connaître Dieu et de le faire connaître. La mission qui consiste à déclarer la bonté de Dieu fait partie intégrante de notre mission dans le monde et elle entre dans notre tâche qui consiste à faire briller la lumière. D'un point de vue biblique, la mobilisation en faveur d'une bonne gouvernance n'est pas une action politique. Elle est inscrite dans le code moral de Dieu. C'est le seul moyen par lequel un Dieu juste peut être réellement compris comme étant juste dans le monde qui lui appartient. C'est la seule chose qui donne du sens au proverbe « La balance et les plateaux justes sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont aussi son œuvre. » Proverbe 16, 11. Un Dieu créateur engagé en faveur de la justice et d'un gouvernement qui reflète son règne, maintenant et pas encore, dans notre temps, ne nous a pas laissé beaucoup de marge de manœuvre pour éviter sa passion dévorante pour un gouvernement qui reflète la justice qui est inhérente à sa propre nature. C'est pour cela qu'une bonne gouvernance doit entrer dans cette équation importante. Et je termine en lisant le passage d'Ésaïe que nous avons commencé notre culte, Ésaïe, au chapitre 9. Que nous connaissons très bien ce passage parce qu'il a été lu, mais très souvent nous nous attardons au verset 5, donc Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. Et j'aimerais qu'on prête surtout attention au 6, au verset 6, et qu'on puisse faire de cela les paroles à nous. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Et maintenant, faisons nôtres ces paroles. Il éteindra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Amen.